Tandis qu'avec l'évangile, nous entrons dans le mystère même de Dieu. Donc finalement, dans la théologie, au sens propre du mot, et au sens dans lequel on dit de l'évangéliste Saint Jean qu'il est le théologien, puisque justement, il contemple le mystère de Dieu. Et donc, c'est avec une certaine appréhension que je me lance dans ce sujet. Le mystère de Dieu apparaît, je crois, d'emblée dans le Nouveau Testament, au moment du baptême du Seigneur Jésus. Vous savez que par l'évangile de Marc, que celui de Jean commence là. Ce qui est normal, finalement, puisque c'est à l'occasion du baptême du Seigneur Jésus que les premiers apôtres ont rencontré le Seigneur Jésus. Et par conséquent, si Matthieu et Luc commencent leur évangile par le récit de la nativité, c'est que par la suite, ils vont remonter dans le temps. Mais enfin, pour les premiers disciples de Jésus, tout a commencé au baptême. Or, c'est là, d'emblée, que nous est révélé le grand mystère de Dieu. Lors de la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire du... Il y a une petite confusion de mots, évidemment. Les orthodoxes, nous appelons fête de l'Épiphanie, la fête du baptême de Jésus, tandis qu'en Occident, on a tendance à appeler Épiphanie la visite des mages. Donc, le jour de l'Épiphanie, nous chantons « Lorsque, Seigneur, tu fus baptisé dans le Jourdain, l'adoration de la Trinité fut manifestée, car la voix du Père se fit entendre, s'appelant Fils bien-aimé, et l'Esprit, en forme de colombe, manifesta la vérité de cette parole, ô Christ Dieu qui nous est apparu et qui a illuminé le monde, gloire à toi. » Effectivement, lors du baptême de Jésus, se manifeste les trois personnes, le Père dont on entend la voix et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », le Fils en la personne de Jésus, le Fils incarné, qui sort de l'eau, et l'Esprit qui en forme de colombe, à ce moment-là, descend sur lui. Nous aurons souvent l'occasion, je crois, de revenir sur cet événement qui constitue ce qu'on peut appeler la chrismation de Jésus. Chrismation, c'est-à-dire le moment où, chrismation en grec veut dire l'onction, le moment où Jésus est manifesté comme celui qui est le oint du Père et qui reçoit l'onction de l'Esprit. Là, il convient de faire un petit peu d'étymologie. En grec, je oint se dit krio, C-H-R-I-O, ou en lettres grecques, krio, je oint, verbe qui a un participe passé, celui qui est oint, participe passé, Christos, Messia en hébreu. Donc, c'est au moment de son baptême que Jésus est manifesté comme le Christos de Dieu, comme le Messia de Dieu, comme le Messie de Dieu, comme le oint de Dieu. Et tant Saint Irénée que Saint Cyrille de Jérusalem que Saint Basile nous font remarquer que dans ce titre de Christos se manifeste la Trinité. Car pour qu'il y ait un Christ, un oint, il faut qu'il y ait quelqu'un qui oigne, le Père, quelqu'un qui est oint, le Fils, et une onction, le Saint-Esprit. En autre mot, on ne peut pas proclamer et confesser Jésus comme Christ sans confesser du même coup le mystère trinitaire. C'est pourquoi il est si important de dire qu'il est Christ. Mais nous allons retrouver, je crois, tout ça progressivement. Je vous propose d'emblée d'aborder le passage où, dans l'évangile de Jean, la nature et la place du Fils nous est le mieux expliquée. Car il est évident que la révélation
néo-testamentaire, la bonne nouvelle, l'évangile, va être progressive. Les apôtres, André et Jean, et puis Pierre, et puis Philippe, et puis Nathanaël, après le baptême de Jésus, le reconnaîtront simplement comme le Christ, le Messie, l'élu de Dieu attendu. Je ne pense pas que d'emblée, ils ont pénétré tout le mystère de qui il est. Et c'est Jean, le théologien, qui va petit à petit nous l'expliquer dans ses chapitres 14, 13, 14, 15, 16 et 17 que vous avez peut-être eu l'occasion de relire. Alors, il apparaît dans ce passage qui nous rend compte du grand discours que Jésus prononça le soir du Jeudi Saint au moment de l'institution de l'Eucharistie et la veille de sa mort. C'est là, au fond, qu'il va définir lui-même qui il est, qui est le Fils. Et il va d'abord apparaître clairement que le Fils existait avant son incarnation, avant qu'il ne se fasse homme. Au chapitre 17, verset 24, « Tu m'as aimé dès avant la création du monde. » Dans le même chapitre, au verset 5, « Glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Et c'est bien ce que Jean nous annonce d'emblée dans le prologue de son évangile. Au début était le Logos, le Verbe, la parole. Tout fut fait par lui, et rien de ce qui fut fait ne fut fait sans lui. Donc il était au début. Le Père l'a aimé dès avant la création du monde. Et il reçoit de son Père la gloire avant même que le monde ne fût. Pour cela, je pense que même l'hérétique Arius le reconnaît et ne le conteste pas. Ce qu'Arius contestera, c'est ce que les disciples de Jéhovah aujourd'hui contestent. Et ce que finalement, au fond, très souvent, plus ou moins inconsciemment, le pensée moyenne, contexte, c'est que le Fils et le Père sont un. Parce que là, nous dépassons le cadre de la rationalité. Le Père et le Fils sont un. Chapitre 14, verset 6. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Verset 9 et 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Là, ce n'est plus de la rationalité. Ce ne sont plus deux objets qui se juxtaposent. Ce ne sont plus deux individus avec des corps distincts dans l'espace. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père demeurant en moi accomplit ses propres œuvres. Et au verset 16, je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Et au verset 23, parlant de son Père et de lui, il dira, nous viendrons à lui, à celui qui croit en moi. Au chapitre 15, verset 14, la pensée se précise, tout ce que possède mon Père est à moi. C'est-à-dire finalement, en langage plus théologique, l'être est commun au Père et au Fils. Tout ce que possède mon Père est en moi. Tout ce qu'ils sont, tous les deux, est commun. Chapitre 17, verset 9. Tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Voyez que le contenu des deux personnes est le même. Au verset 21, il invite ses disciples, il prie que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Et au verset 23, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite.
Entre le Père et le Fils, il y a une unité parfaite. L'unité parfaite de l'amour absolu.
Vous remarquez par cette phrase où il prie que ses disciples soient un, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Les disciples, eux, ne sont pas un, mais ils tendent vers l'unité. Si Dieu est amour, les disciples du Christ, par l'amour, tendent à réaliser l'image de Dieu. L'amour des hommes n'étant jamais parfait, leur unité ne sera jamais parfaite, du moins en ce monde. Tandis que l'unité des personnes trinitaires est parfaite. Et par conséquent, leur unité est parfaite. C'est vrai du Père et du Fils, ce sera vrai également du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont un parce qu'ils s'aiment d'un amour parfait et que Dieu est amour. Mais pour le moment, restons-en aux relations entre le Père et le Fils. Non seulement le Père et le Fils sont un, mais le Fils est Dieu. Et là, nous sommes au centre de la foi chrétienne. On est chrétien lorsqu'on reconnaît que le Fils est Dieu comme son Père. Et il est certain qu'aujourd'hui, pas certain, je crois, que la majorité des personnes qui se disent croyantes, le français moyen, ne croient pas vraiment que Jésus est Dieu. C'est là le critère de notre foi. La foi consiste justement à reconnaître non seulement en Jésus le Messie attendu, mais à distinguer en lui, à discerner en lui le Dieu d'avant tous les siècles. Jean le fait dès son prologue. Au début était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, donc c'est bien une personne différente du Père, et le Verbe était Dieu. Dans la première phrase de son évangile, Jean affirme la divinité du Fils. Mais il faudra que le Christ soit ressuscité pour que ses disciples reconnaissent ce fait dans son intégralité. Je crois que la première fois et la seule fois dans l'évangile où un disciple, en présence de cet homme qui est Jésus, s'écrira « Mon Dieu », c'est lorsque Thomas le voit ressuscité. Lorsque Jésus lui montre les stigmates des clous et de son côté, et qu'il lui dit « Mets ton doigt dans la marque des clous, Thomas, et mets ta main dans la marque de la lance, et ne sois plus incroyant, mais croyant. » Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a fallu la résurrection pour que non seulement lui, mais tous les autres apôtres et disciples reconnaissent en Jésus Dieu. Et je pense que pour nous aussi, ce n'est que lorsque nous découvrons que Jésus est vraiment ressuscité, que nous découvrons qu'en lui, c'est Dieu lui-même qui nous a visités, que c'est Dieu lui-même qui nous sauve. Et c'est cette foi-là qui nous sauve. Quand Jésus dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais », je pense que par croire, il veut dire justement reconnaître en lui Dieu visitant les hommes. C'est là l'épreuve de notre foi. C'est là le grand saut. Et on s'est tellement habitué, vous voyez, à
à considérer que Christ est Dieu, je dirais que quelquefois presque on escamote l'acte de foi qui est vraiment nécessaire. Et c'est dans ce sens qu'il est bon de passer par un certain doute, de se reposer la question, de ne pas prendre pour acquis la divinité du Seigneur Jésus, mais de commencer par le contempler dans son histoire humaine et dans son humanité, pour arriver au moment où l'on pourra dire, pas seulement en mots, mais vraiment avec toute notre conviction personnelle, mon Seigneur et mon Dieu. Cela rejoint évidemment la phrase que nous citions hier, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est une des rares phrases où Jésus affirme lui-même sa divinité. Je suis Yahvé. Mais ses ennemis ne s'y trompaient pas. Vous trouvez au chapitre 5 de l'évangile de Jean, verset 18, il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et ses mêmes ennemis au chapitre 10, verset 33, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et en cela, il mentait, car Jésus n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, il est Dieu qui s'est fait homme. Et c'est très différent. Un homme qui se ferait Dieu serait un monstre d'orgueil, serait effectivement un blasphématoire. Jésus n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, alors il aurait été un fou, alors qu'il est tellement illustré, tellement près des réalités quotidiennes, tellement près du blé et des moutons et de la nature, tellement plein de bon sens dans ses réparties foudroyantes aux pharisiens, tellement homme dans toute l'harmonie et l'équilibre du terme. Et pourtant, lorsqu'il lui dit cela, il répond, déjà, le Père est en moi comme je suis dans le Père. Donc il est Dieu. Et cela est apparu, cela a été manifesté clairement pour la première fois aux apôtres, le jour de la transfiguration. C'est pourquoi la transfiguration est vraiment l'une des plus grandes fêtes de l'Église. Et il est regrettable que la fête du 6 août, du moins en France, passe si souvent en quelque sorte inaperçue. Car enfin, le jour de la transfiguration, Jésus a montré à Pierre, à Jacques et à Jean, sa gloire divine. Et ce n'est pas pour rien qu'à côté de lui, il y a les deux grands témoins de l'ancienne alliance, les deux grands visionnaires des théophanies de l'ancienne alliance, Moïse et Élie, qui sont là comme pour dire à Pierre, à Jacques et à Jean, oui, cette lumière qui rayonne de son visage et qui le rend plus brillant que le soleil, cette lumière éclatante qui fait que ses vêtements sont plus blancs que la neige, c'est la même lumière que moi, Moïse, j'avais vue dans le buisson ardent. C'est la même voix que Élie avait entendue sur l'Horeb. Oui, donc, cette lumière n'est pas une lumière qui éclaire son visage de l'extérieur. Et vous remarquerez bien, nous aurons l'occasion de le voir sur les icônes de la transfiguration, la source de lumière qui éclaire le visage du Christ n'est pas une lumière extérieure à ce visage. C'est le visage du Christ qui est la source de lumière. Ce n'est pas une lumière qui l'éclaire, c'est lui qui éclaire toute la scène et qui éblouit
ces apôtres qui tombent prostrés à terre. Voyez que c'est bien la lumière incréée de la divinité qui en quelque sorte éclate à travers la chair de l'homme le jour de la transfiguration. Mais revenons au discours de Jésus avant la veille de sa mort. Si dans son discours apparaît clairement à la fois la préexistence du Fils avant son incarnation, l'unité du Fils et du Père, et la divinité du Fils, il y a cependant une phrase qui peut nous surprendre. Elle est au chapitre 14, au verset 28. Le Père est plus grand que moi. Que veut dire cette phrase? Évidemment, on pourrait dans un premier temps répondre simplement qu'il parle là en tant qu'homme. Qu'étant donné que le Fils, en quelque sorte, comme nous le dira saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, s'est anéanti pour prendre la forme d'un esclave, pour devenir homme, en tant que vidé, c'est le mot grec, en tant que vidé, en tant qu'anéanti en quelque sorte de sa divinité, en tant qu'homme, il reconnaît évidemment que le Père est plus grand que lui. Mais je crois que la phrase va plus loin que cela. S'il est évident et vrai que le Fils a la même gloire que le Père, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût, s'il est vrai que par conséquent nous lui devons la même adoration qu'à son Père et qu'à son Saint-Esprit, il n'en demeure pas moins que le Père est la source de la divinité et que c'est le Père qui engendre le Fils et non pas évidemment le Fils qui engendre le Père. Donc, vous voyez, il y a ici de nouveau une antinomie. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui, le Fils est l'égal du Père. Et cependant, le Père est plus grand que le Fils, en tant qu'il y a dans la Trinité ce que les Pères de l'Église appellent une monarchie du Père. C'est-à-dire que c'est du Père que le Fils est engendré, c'est du Père que l'Esprit procède, c'est le Père qui est la source, qui est le principe de la Trinité. Par principe, je n'entends pas évidemment quelqu'un qui serait antérieur dans le temps au Fils et à l'Esprit, mais quelqu'un qui est la source du Fils et de l'Esprit. C'est pourquoi dans le chapitre 16, au verset 16, il nous dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais au Père. » Et au chapitre 17, verset 8, « Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi. » Et au chapitre 16, verset 17, « Le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, » il s'adresse au Père, c'est le Père qui donne au Fils ce pouvoir sur toute chair. Et déjà dans le prologue de Jean, au premier chapitre, verset 14, « La gloire qu'un Fils unique tient de son Père. Ce n'est pas le Père qui tient sa gloire du Fils, c'est le Fils qui tient sa gloire du Père. Et nous ne disons pas au nom du Saint-Esprit du Fils et du Père, mais nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas là une subordination du Saint-Esprit au Fils et du Fils au Père. Vous voyez qu'il n'y a pas là quelque chose que notre raison puisse saisir. Les trois personnes sont égales, mais cependant, nous nommons le Père avant le Fils et le Fils avant l'Esprit, et c'est le Père qui est la source, c'est le Père qui engendre le Fils. et que cette phrase ne s'applique donc pas simplement au Fils en tant qu'homme parlant de son Père. Enfin, ça peut-être nous pourrons en discuter tout à l'heure, mais vous voyez là, nous sommes au plein centre du mystère des relations entre les personnes. Mais venons-en, si vous voulez bien, à la personne maintenant du Saint-Esprit. Là, il nous faut d'abord remonter à l'Ancien Testament, au prophète messianique par excellence, au grand prophète Isaïe. Vous connaissez tous la phrase que nous pouvons attribuer au Fils lui-même, parlant par la bouche du prophète, au chapitre 61 du livre d'Isaïe. Je crois que c'est le premier verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, c'est-à-dire il m'a fait Christ. Et vous retrouveriez, je n'ai pas la citation exacte, je crois que c'est au chapitre 42, la même idée dans le livre d'Isaïe. L'Esprit qui repose sur lui est le signe caractéristique du Fils qui permettra de le reconnaître. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous dit que Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là sera mon élu. Le signe par lequel Jean-Baptiste, le précurseur, reconnaîtra le Christ sera le fait que l'Esprit reposera sur lui. Et ce signe, attendu par Jean, se réalisera au moment du baptême, lorsque Jean verra l'Esprit en forme de colombe descendre et se reposer sur le Fils. C'est l'onction du Jourdain qui manifeste ce qui. Je dis qui manifeste ce qui est, parce que ce n'est pas au moment du baptême, cela serait une hérésie nestorienne, ce n'est pas au moment du baptême que Jésus est devenu le Christ, mais c'est au moment du baptême qu'il a été manifesté comme Christ. L'Esprit reposait déjà sur lui, lorsque parlait le prophète Isaïe, l'Esprit reposait sur lui de toute éternité, car de toute éternité, il est Fils. Mais vous voyez bien que celui qui oint, c'est le Père, et que c'est le Père qui fait reposer l'Esprit sur le Fils, le manifestant ainsi comme Christ. Mais par là même, il est évident que l'onction, c'est-à-dire l'Esprit qui repose sur le Fils, procède du Père, car celui qui est oint ne se oint pas lui-même. C'est le Père qui le oint. Le Fils est celui qui est oint, et l'Esprit est onction. Vous voyez que là, j'aborde un petit peu... Il est bon, je pense, qu'on ait le courage d'aborder ces choses, ce qui constitue encore, bien qu'avec beaucoup moins d'acuité qu'autrefois, mais qui constitue encore la différence entre les orthodoxes et les catholiques. Alors, il ne faut pas, je crois, escamoter tout de même ce sujet, puisqu'il est au centre du mystère de Dieu. Et peut-être que ce sont des raisons linguistiques qui sont pour quelque chose. Il est évident que lorsque les Grecs disent que Jésus est Christ, ils sont conscients de dire qu'il est le oint. Tandis qu'en français, on a tendance à dire Christ, à dire Jésus-Christ, comme si Christ était le nom de Jésus, alors qu'il est son titre. Lorsqu'on est conscient que le Christ, ça veut dire celui qui est oint Du même coup, on ne peut pas concevoir son onction comme procédant de lui. On ne peut concevoir son onction que comme procédant de celui qui le oint, c'est-à-dire du Père. Et vous allez voir que dans le discours de Jésus, la veille de sa mort, nous allons retrouver cette idée. Au chapitre 15, verset 21, « Lorsque viendra le Consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. » Alors, vous remarquez bien que c'est le Fils qui va l'envoyer. « Je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. » L'Esprit vient du Père, mais est envoyé aux hommes par le Fils. Nous retrouvons donc ici la monarchie du Père. Le Père est la source de la Trinité, soit qu'il engendre le Fils, soit, je me sers d'un mot un peu barbare, soit qu'il spire le Saint-Esprit, qu'il le souffle en quelque sorte, vous voyez. Il engendre le Fils et il souffle l'Esprit. Mais comme cet Esprit repose sur le Fils, c'est le Fils qui le donne aux hommes. Et nous pouvons même dire que c'est là la raison d'être de l'incarnation. Le Fils s'est fait homme pour nous donner l'Esprit, c'est-à-dire pour nous donner Dieu. C'est le don de Dieu dont Jésus parlait à la Samaritaine. Le don de Dieu, je ne pense pas que ça veuille dire simplement le don que Dieu donne, mais je pense que le don de Dieu, ça veut aussi dire que Dieu est donné. C'est ça qui est merveilleux. Jésus nous donne Dieu en nous donnant le Saint-Esprit qui repose sur lui. Par l'incarnation, nous recevons en la personne du Saint-Esprit Dieu lui-même qui nous est donné par le Fils. Vous comprenez alors la phrase de Saint Séraphin de Sarov. Lorsque son disciple lui demande quel est le but de la vie, et que le Saint répond, l'acquisition du Saint-Esprit. Recevoir Dieu en la personne du Saint-Esprit, c'est le but même de la vie. Mon âme a soif de Dieu, comme la biche a soif de l'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Accueillir le Saint-Esprit, c'est le don suprême du Christ. Et nous devons désirer, je crois, non pas les dons de Dieu, non pas recevoir de lui des cadeaux, mais le recevoir lui-même en la personne de son Saint-Esprit. Le chapitre 16, au verset 14, nous fait faire un pas de plus. « Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera, il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce qu'il reçoit de moi. » Vous voyez que si nous avons vu tout à l'heure que le contenu, en quelque sorte, l'être du Père et du Fils était le même, ce qui est à moi est à mon Père, et ce qui est au Père est à moi, tout ce qu'a le Fils, il le donne, il le transmet à l'Esprit qui le reçoit de lui, et l'Esprit nous le communique. Donc, l'être du Père et du Fils est également commun à l'Esprit. Ils sont tous les trois un seul être. L'essence est commune. Il n'y a rien qu'est le Père, que le Fils n'est pas, et que l'Esprit n'est pas. Et si le Père est amour, le Fils est amour, et l'Esprit est amour. Ils sont tous les trois amour, ils sont tous les trois vérité, ils sont tous les trois Dieu. Et donc, si nous pouvions dire tout à l'heure que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même et unique substance que le Père, bien qu'à l'époque Saint Basile lui-même ait hésité à le dire, parce que déjà la consubstantialité du Fils avait créé tellement de controverses qu'il hésitait à allumer une nouvelle controverse. Et donc Saint Grégoire, je crois, lui reproche de ne pas avoir eu l'audace de dire ce que l'Église affirme, que le Saint-Esprit aussi est consubstantiel au Père et au Fils, et qu'on peut parler des trois personnes comme des trois consubstantiels, et nous disons plus couramment que la Trinité est consubstantiel et indivisible. C'est-à-dire que l'être des trois personnes est le même, qu'il n'y a qu'un seul être divin. Nous ne sommes pas des polythéistes qui croyons en trois dieux. Il est évident, il n'y a qu'un Dieu, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, chaque personne ayant le même être. Donc, le Père est le source et la source des deux. Il engendre le Fils, et le Fils ne l'engendre pas. Vous voyez que si l'être est commun, les relations entre les personnes ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas dire que le Fils engendre le Père. Ce sont bien des personnes distinctes. Et de même, le Fils envoie l'Esprit, et vous ne pouvez pas dire que l'Esprit envoie le Fils. L'Esprit procède du Père, mais le Père ne procède pas de l'Esprit. Mais cependant, il y a des réciprocités. Car si le Fils envoie l'Esprit, l'Esprit rend le Fils présent. Pensez de nouveau au mystère de l'incarnation et au Magnificat. L'Esprit du Seigneur descend sur Marie. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pour se servir d'une image, si nous comparons le Père, que Dieu m'excuse de cette image, à un projecteur de diapo, et si nous comparons le Fils à l'icône du Christ qui est sur la diapo, le faisceau de lumière, c'est l'Esprit qui projette le Logos, le Fils, dans le sein de la Vierge Marie, qui rend présent. De même que dans le mystère eucharistique, nous aurons l'occasion de le voir, c'est le Saint-Esprit qui rend le Verbe présent dans le pain et dans le vin. Et que c'est l'Esprit qui rend, le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu, le Fils, présent dans l'Église. Donc vous voyez, le Fils nous envoie l'Esprit, mais l'Esprit rend présent le Fils. Et tous les deux ont comme source commune le Père, qui engendre le Fils et dont procède l'Esprit. Notez bien, le Christ s'exprime au chapitre 14, verset 16, de façon un peu différente. Il dit « Je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. » Tandis que, dans l'autre passage, il disait « Je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité. » De même, au verset 26 du chapitre 14, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc, vous voyez qu'on a raison de dire que l'Esprit est envoyé et par le Père et par le Fils. Les deux envoient l'Esprit. Mais la grande confusion qui paraît être à l'origine du schisme, c'est la confusion entre l'envoi du Fils, l'envoi de l'Esprit vers nous, qui est l'œuvre et du Père et du Fils, et la procession éternelle de l'Esprit qui vient du Père seul. Vous voyez, il y a une distinction que font les Pères, mais que fait le texte même de l'Évangile et de Saint Jean, entre l'envoi de l'Esprit et la procession de l'Esprit. La procession de l'Esprit, c'est l'origine éternelle de l'Esprit au sein de la Trinité du Père seul. L'envoi vers l'extérieur, en quelque sorte, ad extram, de l'Esprit vers le monde et vers les hommes, vient et du Père et du Fils. Car puisque l'Esprit repose sur le Fils nous l'envoie. Vous voyez donc le schéma. L'Esprit repose de toute éternité sur le Fils, et par conséquent, le fait Christ, et le Fils, en se faisant chair, vient nous donner l'Esprit qui repose sur lui, et c'est la communion du Saint-Esprit. Donc vous voyez que finalement cette théologie johannique nous concerne très directement, puisqu'elle concerne notre réception du Saint-Esprit. Et remarquez aussi que lorsque Jésus, dans l'évangile de Jean, appelle l'Esprit le Consolateur, dans le texte grec, il se sert d'un masculin. Alors que le mot esprit, pneuma en grec, est un mot neutre. Mais il se sert de l'article o, c'est-à-dire de l'article masculin, pour désigner le consolateur, et non pas de l'article neutre to, qui s'imposerait pour le mot pneuma, qui veut dire esprit. Qu'est-ce à dire? Que Jean souligne par là que l'Esprit Saint est quelqu'un. Et c'est là l'innovation par rapport à l'Ancien Testament. Car dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'il est question de l'Esprit de Dieu, le terme est ambigu. On ne peut pas dire que dans l'Ancien Testament, il apparaît d'une façon évidente que l'Esprit est quelqu'un. La lecture chrétienne de l'Ancien Testament y verra ce quelqu'un qu'est l'Esprit Saint. Mais le texte dans l'Ancien Testament, quand il parle de l'Esprit, n'est pas encore explicite. Tandis que dans l'Évangile de Jean, c'est tout à fait explicite. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Ce n'est pas simplement l'Esprit de Dieu. C'est une personne, tout comme le Fils et tout comme le Père. Alors finalement, quand le Christ dit de Marie qu'elle a choisi la meilleure part par rapport à Marc, je crois que nous devons reconnaître que ceux qui, dans les déserts ou dans les cloîtres, consacrent toute leur vie à contempler le mystère trinitaire, c'est-à-dire à faire de la théologie, car la théologie, ce n'est pas autre chose que la contemplation de Dieu, que ceux-là ont choisi la meilleure part. Et tout cela, je pense, jaillit de la foi en la résurrection. Je crois que c'est là, me semble-t-il, que le déclic se produit. Il n'y aurait pas pu avoir de Pentecôte sans résurrection. Si le Fils n'avait pas été glorifié, il n'aurait pas pu nous envoyer l'Esprit. Mais il est évident que la révélation n'est pas complète tant que ne s'est pas produit la Pentecôte. Et alors nous verrons, quand nous étudierons Saint Basile, qu'il y a là un double mouvement. Je ne me souviens pas de la phrase exacte, je vous la citerai quand nous étudierons Saint Basile, qui nous dit que le Père nous envoie le Fils nous donne l'Esprit. Donc vous voyez, l'Esprit nous vient du Père par le Fils, c'est le mouvement descendant, mais que nous nous suivons le processus inverse, c'est lorsque nous recevons la lumière de l'Esprit que nous discernons le visage du Fils et qu'à travers lui, nous connaissons le Père. Vous voyez, l'Esprit est répandu sur nous en passant par le Père, Père, Fils et Saint-Esprit, mais nous accédons au Père en étant d'abord touchés par l'Esprit, ce qui nous permet de reconnaître le Fils et à travers le Fils, de connaître le Père. Nous ne pouvons pas connaître le Père sauf si le Fils nous le révèle, et nous ne pouvons pas discerner et connaître le Fils en tant que Dieu si l'Esprit ne touche pas notre cœur. Voyez les deux mouvements, le mouvement descendant de Dieu le Père par le Fils dans le Saint-Esprit jusqu'à nous, et le mouvement ascendant, la communion du Saint-Esprit qui nous permet de contempler le Fils et à travers lui de connaître le Père. D'où l'importance primordiale de l'acquisition de l'Esprit, sans lequel nous ne pouvons pas regarder le Fils et par conséquent connaître le Père. Tout cela, vous voyez, j'ai conscience de l'avoir dit d'une façon trop sèche, presque scolastique. Je pense que vous, qui priez mieux, vous pourrez, comment vous dire, donner tout le contenu intérieur à cette contemplation trinitaire en relisant, en réinterprétant, en vous appropriant vous-même tout ce discours de Jésus dans les chapitres 13, 14, 15, 16, 17 de Jean, ainsi que le prologue de Jean, ainsi qu'au fond tout l'évangile de Jean, qui n'est finalement qu'une contemplation du début jusqu'à la fin du mystère de Dieu. Je ne veux pas dire que Matthieu, Marc et Luc ne le soient pas aussi, mais ce n'est tout de même pas pour rien qu'on appelle Jean le théologien.